Rebienvenue à l'émission En profondeur. Il est 17h22 minutes. Donc, nous allons passer maintenant à Mathieu des Apatrides Anonymes. Bienvenue.
Bienvenue. Merci à toi, Léla.
Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a pour comme sujet aujourd'hui?
Ah, encore des très mauvaises nouvelles, malheureusement. On est un peu les abonnés à la chronique des mauvaises nouvelles. Donc, dernière chronique de 2014. Je ne ferai pas un bilan de l'année, mais on va revenir sur certains sujets qui ont été dans l'actualité dans les dernières semaines.
Oui.
Comme entre autres le bilan des morts en mer pour ce qui est des réfugiés, des migrants en 2014, recrudescence du sentiment d'immigration en Allemagne. Je vais commencer avec un sujet dont tout le monde a entendu parler, le fameux rapport sénatorial du Congrès américain sur les techniques d'interrogatoire musclé de la CIA ou torture, évidemment, dans un langage plus concret. Réaction au Canada, pas très surprenante de la part du fédéral. Ministre de la Sécurité publique, Stephen Blaney, réaffirme que si les informations qui proviennent de sources qui pourraient avoir été obtenues sous la torture, si ça menace la vie des Canadiens, il est prêt à l'utiliser. Mais ça, c'est le même discours des conservateurs depuis plusieurs années. Donc, on se distancie pas vraiment des techniques de la CIA ou des techniques officielles des Américains, c'est-à-dire de torturer des prisonniers. Peter McKay, ministre de la Justice canadien toujours, dit qu'on examine toujours les sources des renseignements qu'on obtient par les services étrangers, mais qu'en raison de certaines urgences, ça peut être possible d'utiliser des renseignements qui ont été obtenus sous la torture par d'autres pays. Donc, on tourne un peu en rond. Peut-être rappeler qu'en 2010, le gouvernement avait autorisé l'ESRS à utiliser des informations obtenues sous la torture lorsque la sécurité des Canadiens est en danger, évidemment. Ça, c'était le ministre Vic Taze de la Sécurité publique à l'époque. Et la GRC et l'Agence de services frontaliers ont eu la même directive. Et ces consignes sont toujours en vigueur. On l'a rappelé d'ailleurs dans les dernières semaines. Et aussi, il y a un autre organisme, le Centre de surveillance des télécommunications, qui préconise la même chose. Donc, on se scandalise de ce qui se passe aux États-Unis, mais dans le fond, le Canada est complice de ces techniques-là et de ce qu'on fait aussi avec les renseignements. D'ailleurs, tout ça relance, à chaque fois qu'on a des questions comme ça dans l'actualité, ça relance des demandes de mieux surveiller les agences de surveillance au Canada, dont le SRS, évidemment. On rappelle dans le Toronto Star récemment que le Canada est le pays occidental le moins rigoureux à cet égard au niveau de la surveillance des agences de renseignement. On parle évidemment du coma Errarar qui avait été assez médiatisé. Et en plus, dans une conjoncture où les budgets et les pouvoirs des agences, dont le SRS, ont été augmentés de façon assez importante dans les dernières années, les contrôles ont été baissés. Donc, il y a vraiment une disproportion à ce niveau-là. Il y a un projet de loi sénatorial actuellement, le S-220 du sénateur Youth Siegel, qui demande de créer un comité de députés et de sénateurs qui serait chargé exclusivement de surveiller les agences de renseignement, y compris aussi les agences militaires et de police. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sur la table, encore une fois, parce qu'on en parle régulièrement. Dans le même ordre d'idée, il y a eu un texte assez intéressant de Paul Robinson qui est sorti dans les journaux canadiens la semaine passée où pour son principal argument, c'est de dire qu'il y a un mythe selon lequel nous vivons dans une ère plus dangereuse que les aires précédentes, donc plus dangereuse que jamais. Lui, il prétend que c'est faux. Beaucoup de gens aussi le prétendent. On fait le lien avec la période de la guerre froide. Il y avait beaucoup plus de conflits, beaucoup plus de groupes armés, de terrorisme, et que depuis 20 ans, c'est beaucoup plus tranquille malgré tout ce qu'on voit. Pas qu'il se passe rien, mais que c'est beaucoup moins intense que ça l'a déjà été. Mais que les politiciens se servent évidemment de certaines enflures médiatiques ou de certains cas spécifiques pour justifier plus de budget, plus de pouvoir pour les agences de sécurité, avoir des politiques aussi plus agressives pour combattre des menaces qui sont supposément en croissance. On le voit avec ce qui est arrivé, mettons, par exemple, à Ottawa et à Saint-Jean-sur-Richelieu dans les derniers mois. Ça justifie le fait de faire des nouveaux projets de loi antiterroristes, d'accorder plus de pouvoir aux policiers, aux services de sécurité. Et on fait plus d'interventions militaires aussi à l'étranger, comme les bombardements de certains pays en conflit, qui sèment le chaos, qui font juste faire tourner la roue. Donc, plus de conflits, plus de menaces et plus de pouvoir, plus de sécurité. Donc, on tourne un peu en rond et on invente régulièrement des nouveaux ennemis, qui sont les menaces à la sécurité nationale. Pas nécessairement qu'ils n'existent pas, ces groupes-là ou ces personnes-là, mais on les met comme menaces à la sécurité de l'Occident ou des pays comme le Canada. On voit ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Russie récemment. Donc, puis on rappelle dans ces informations-là que que le poste d'inspecteur du SRS a été aboli en 2012. Donc, c'est une sorte de comité bidon qui est toujours là, où c'est des nominations partisanes. Mais il n'y a vraiment rien d'intéressant pour vraiment savoir ce qui se passe au niveau des services de renseignement. Ce qui nous renvoie à ce qu'on peut faire comme utilisation, par exemple, de la torture ou d'informations obtenues sous la torture. Je change de sujet, Léla. En Allemagne, malheureusement, les gens peut-être ont commencé à en entendre parler. Quelques semaines, il y a des manifestations régulièrement anti-immigrants, anti-réfugiés. Le 8 décembre, il y avait 10 000 personnes à Dresde. Et le 15 décembre, donc lundi dernier, il y avait aussi plus de 10 000 personnes. Dresde qui est en ex-RDA. Le groupe qui organise ces manifestations-là s'appelle PEJIDA, qui est un acronyme qui veut dire « Européen patriote contre l'islamisation de l'Occident ». Faut dire qu'il était au début quelques centaines et là ça grossit dangereusement. Bon, dans les articles on parle que c'est beaucoup des skinheads d'extrême droite, des hooligans, des nationalistes radicaux, mais il y a quand même de plus en plus malheureusement de gens dits ordinaires entre guillemets qui sont pas nécessairement militants. Et c'est calqué comme modèle sur les Montags démo qui avaient eu lieu à la fin des années 80 contre le régime de l'ex-RDA, le régime dit communiste. Donc, on prend ce modèle-là de ces manifs-là le lundi. Donc, il doit en avoir une aujourd'hui, j'imagine, en Allemagne aussi. On vérifiera ça. Ce qu'ils demandent, ces gens-là, c'est le durcissement du droit d'asile allemand. On dit que les villes, c'est les villes qui sont responsables souvent d'accueillir les réfugiés. Il y en a eu plus de 200 000 réfugiés en Allemagne en 2014, ce qui est un nombre qui augmente à chaque année. Évidemment, on parle que l'origine de tout ça, c'est les conflits en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Somalie. On tourne toujours un peu autour des mêmes choses. Mais évidemment, c'est des sentiments xénophobes, encouragés par l'ignorance, la méfiance, la peur, par certains groupes politiques, dont le parti Alternative für Deutschland, que je connais pas, qui est un parti d'extrême droite. Donc, évidemment, on tourne encore au niveau du populisme, puis au niveau de trouver des boucs émissaires. Les officiels allemands, comme la chancelière, les ministres, ont dénoncé ces mouvements dits xénophobes, mais ça a l'air à prendre l'expansion. Et en Allemagne, c'est toujours un mauvais souvenir de voir que des groupes d'extrême droite qui font des manifestations. On dit qu'à Düsseldorf, ils ont maintenant leur groupe, à Leipzig, Würzburg, Rostock et Munich aussi. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'Allemagne. Peut-être dire quand même qu'à la dernière manifestation, lundi dernier, il y avait quand même quasiment autant d'antifascistes qui manifestaient contre la manifestation anti-immigration. Donc, c'est quand même intéressant. Fait que d'un côté, on a les slogans non à l'islamisation de l'Occident, demandeurs d'asile criminel, et de l'autre côté, on a Dresde sans nazis et Dresde pour tous. Donc, on voit vraiment que c'est... Il y a deux côtés relativement égaux. D'ailleurs, un sondage d'un quotidien allemand dit que 49% des gens montrent de la sympathie pour les manifestations anti-immigrants. Donc, on s'en va vers un gros débat, je pense, en Allemagne. Puis, ça risque de brasser dans les prochaines semaines. Mais c'est sûr qu'en en Europe, en général, il y a ces débats-là qui reviennent régulièrement, alimentés souvent par des partis populistes. Mais c'est souvent la réalité qu'on a. J'avais une petite nouvelle, peut-être un peu moins noire, un peu moins négative, mais qui nous fait penser aussi à différentes choses sur le système d'immigration canadien dont on parle souvent à la chronique ici. Il y a eu beaucoup de Philippins qui ont été accueillis au Canada depuis le typhon Haiyan en 2013. On parle de 2300 Philippins. Il y avait eu des mesures spéciales pour les gens des Philippines. Le typhon avait fait 6000 morts et démoli une bonne partie des Philippines. Donc, il y a eu à peu près 2000 demandes de résidence permanente acceptées et 300 de résidence temporaire. C'est du jamais vu en 10 ans qu'il y a autant de gens d'un même pays qui arrivent au Canada avec des programmes spéciaux. On parle de 81% des gens qui ont accepté des Philippines, qui ont fait une demande. Des gens qui se sont installés à Toronto, Winnipeg, Vancouver, Montréal. Peut-être dire que c'est bien. Mais il y a quand même 1100 Philippins qui ont toujours pas eu de réponse. Ça fait quand même plus d'un an que ça dure. Et il y a eu un autre typhon dernièrement, là, à Gupit, qui a fait aussi beaucoup de réfugiés, qui a causé beaucoup de gens, qui a renvoyé beaucoup de gens dans la rue. Et peut-être dire aussi, dans l'article que j'ai lu, qu'il y a un avocat qui dit que c'est le fun de faire des mesures comme ça, mais ça serait intéressant qu'il y en ait en permanence, qu'on accueille plus de réfugiés et qu'on n'attende pas qu'il y ait des catastrophes pour accueillir des gens qui ont besoin d'asile. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on accueille plus de gens, mais il faudrait le faire pour un peu tout le monde. Petite information que je voulais souligner par rapport au Mexique. Il y a des pressions depuis quelque temps par plusieurs groupes pour enlever le Mexique de la liste des pays sûrs. Sans tomber dans les détails, la liste des pays sûrs, c'est des pays dont les ressortissants ne peuvent pas faire une demande de réfugié parce qu'ils sont considérés comme des pays où tout va bien. Le Mexique est là-dedans, comme d'autres pays. Ça, c'est issu de la dernière remouture de la réforme de l'immigration en 2012. Et bien évidemment, au Mexique, on rappelle qu'il y a quand même 130 000 Mexicains qui ont été tués depuis 2007. Qu'il y a 26 000 personnes disparues depuis 2005, qu'à chaque jour, il y a des gens assassinés par la police, par la mafia, par l'armée, et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici demandant le statut de réfugié avec raison. D'ailleurs, on rappelle le cas de Véronica Castro qui a été trouvée morte quelques jours après avoir été renvoyée au Mexique par le Canada. Donc, c'est quand même assez sérieux. Donc, il y a une pétition qui a été mise en ligne par le groupe des Mexicains pour la régularisation. Leur site, c'est mexregularizacion, avec un Z et un C, .org. Et le site est, la pétition est sur le site de change.org. Il faut la trouver. C'est demander que le Canada soit retiré. C'est une pétition qui circule depuis pas mal de semaines. Je pense qu'il y a pas mal de signatures. Et c'est intéressant de rappeler qu'au Mexique, c'est l'enfer. Il se passe beaucoup de choses assez difficiles. Donc, je vais terminer rapidement avec le bilan des morts en mer au niveau de la Méditerranée. Oui. Officiellement, elle est devenue la route la plus mortelle du monde en 2014 avec 3400 migrants qui ont perdu la vie officiellement, parce qu'il y en a peut-être plus. C'est le rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés qui est sorti la semaine passée. Donc, on parle d'un record, évidemment. 207 000 migrants qui ont traversé la Méditerranée, donc 3400 qui sont décédés, venant surtout de la Syrie, on revient encore à ça, et de l'Érythrée, où il se passe vraiment des trucs très, très difficiles, répression brutale du pouvoir, service militaire obligatoire, plein de choses. On connaît moins l'Érythrée. Peut-être souligner aussi que l'Italie a mis fin à son opération Mare Nostrum, qui est une opération spéciale pour accueillir plus de réfugiés en mer. Par exemple, ils en ont secouru 8 000 au mois de novembre, mais l'opération est terminée depuis la fin octobre, et ils auraient voulu continuer, l'Italie, mais ils n'ont pas eu l'appui financier et politique des autres pays européens. Donc, on a décidé d'arrêter cette opération qui avait permis de sauver des dizaines de milliers de vies. Puis avec le chiffre qu'on vient de voir et l'année record qu'il y a eu, c'est quand même assez important. Peut-être souligner aussi que 348 000 personnes ont pris un bateau en 2014 pour essayer d'aller dans un autre pays, pour migrer. C'est un nouveau record, évidemment, aussi. On parle qu'il y a eu quand même des morts aussi dans le golfe du Bengale, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, mais c'est surtout la Méditerranée qui est vraiment, vraiment le cimetière des migrants. Plus de 3400, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment incroyable. Et ça va augmenter parce qu'à chaque année, il y a de plus en plus de gens qui passent par la Méditerranée, qui fuient les pays en guerre, et l'Europe ferme de plus en plus ses frontières, malgré certains programmes pour aider. Mais c'est sûr que ça risque d'être malheureusement un bilan aussi négatif l'année prochaine.
Bien, merci beaucoup pour tout ça, Mathieu.
Merci, Léla, puis félicitations pour avoir tenu le fort tout l'automne en profondeur.
Merci.
C'est quand même du gros travail.
Oui.
Fait que merci à toi.
Merci.
Et nous, on revient en janvier, les apatrides d'Anonymes, pour notre chronique aux deux semaines.
Ah, les auditeurs vous attendent.
J'espère.
Merci.
Merci à toi.